l'ombre sinistre de la mondialisation, ou le piège, voilà. On va voir comment la mondialisation va se distinguer de l'universalisme, d'une façon universelle de voir le monde. La mondialisation est mère du communautarisme, on verra. C'est un peu rapide, mais je vais essayer de le montrer. Et puis, l'universalisme, ou le catholicisme, c'est le même mot, est père de la communion. Voilà. Communautarisme, communion, on va essayer d'aboutir à cela. Alors, c'est rare que je dise la fin, un peu comme dans les Colombo, avant le début, avant d'avoir développé mes idées. Revenons à la mondialisation. La mondialisation, c'est un fait historique et économique. C'est plutôt sympa, d'ailleurs. C'est plutôt sympa, sauf que déjà, on sait que la mondialisation vient après une phase de colonisation, puis de décolonisation. C'est une sorte de troisième phase. Et déjà, on voit qu'il y a des racines qui ne sont pas tout à fait nettes, puisque les deux phénomènes précédents ne sont pas, eux non plus, exempts de crimes, de violences, de déshumanisation, etc. Donc, on va essayer de comprendre. En tout cas, c'est un processus qui a des aspects positifs, la mondialisation, par lequel les différentes régions du monde deviennent de plus en plus interconnectées. J'ai pris la définition sur Internet, je ne me suis pas cassé la tête. De plus en plus interconnectées et interdépendantes sur des plans économiques, culturels, politiques et technologiques. Alors, commençons par technologique, la mondialisation technologique, évidemment. Internet, la preuve, nous sommes sur Internet. Les transports sont plus rapides, les communications sont instantanées dans le monde entier, on peut faire des visioconférences, l'échange de formations, d'informations, d'innovations est immédiat. En même temps, ce pouvoir technologique va créer un pouvoir mondial du style Big Brother. On peut surveiller tout le monde, on sait ce que tout le monde fait. Il y a une sorte de déshumanisme, c'est-à-dire l'humain se retrouve tout seul face à toute une planète. Avant, il était seul face à un village. Mais maintenant, c'est toute la planète qui est face à lui à chaque fois qu'il agit. Et puis, il y a des inégalités numériques. Ceux qui n'ont pas accès à la technologie en fonction du pays, de la zone, des infrastructures, des revenus ou de l'âge, etc., etc. Donc, on voit que là, se créent déjà des zones d'ombre. Mondialisation économique maintenant. On peut désormais produire et vendre à l'échelle mondiale. Hein, on peut faire des fortunes de milliards en quelques semaines, quelques mois, si on arrive à vendre son produit à la terre entière. Donc le commerce est international, il y a des entreprises multinationales, et effectivement ça permet de transférer, de faire circuler les capitaux, les richesses, les marchandises, mais aussi les travailleurs. Alors, tout cela crée aussi, c'est la zone d'ombre, des inégalités. Il y a une sorte de moins-disant social. Hein, il y a celui qui paye le moins son ouvrier, ben, va gagner le marché, évidemment. Donc, il y a une exploitation des richesses aussi des autres, des richesses humaines, la fuite des cerveaux ou l'émigration des cerveaux dans certaines régions du monde ou des forces de travail qui s'en vont pour aller là où il y a de l'argent et là où on leur donne plus. Mais aussi les richesses naturelles qui peuvent être pillées. Il y a beaucoup de guerres à cause de cela. Donc, vous voyez, cette mondialisation économique, avec les délocalisations d'entreprises, la précarisation, je sais pas comment ça se dit, la question qui se pose aujourd'hui sur le Mercosur, est-ce qu'on importe des produits moins chers, on va couler des gens qui travaillent ici ou ailleurs, etc. Les atteintes à l'environnement, facile d'atteindre l'environnement des autres que de protéger le sien, et aussi la délocalisation des déchets. Hein, quand on a un déchet toxique ou autre, on le transporte dans le pays du voisin, comme ça chez nous, c'est tranquille. Donc vous voyez là aussi, zone d'ombre. Autre mondialisation, la mondialisation politique. Alors c'est super, il y a des organisations internationales qui font régner un droit international plutôt correct, avec évidemment les droits de l'homme, comme l'ONU, ou d'entraide, comme le FMI, on peut dire ça, ou l'OMC, ou l'Union européenne, ou l'OMS, le commerce ou la santé, bon, avec des coopérations, des règles communes qui permettent certainement de protéger certaines parties du monde. En même temps, c'est cette mondialisation politique crée une sorte de perte de souveraineté, d'éloignement énorme du pouvoir, des lieux de décision, des peuples. Donc les peuples perdent leur souveraineté, ne savent plus très bien qui gouverne et comment les décisions sont prises. L'individu est perdu. Il y a une déréglementation finalement, parce que tout le monde, qui prend les décisions, la mondialisation aussi du crime. Parce que si on peut mondialiser les bonnes choses, on mondialise aussi le crime avec des mafias, etc. Autre zone d'ombre, les conflits, les invasions de convoitises, les conflits internationaux. Aujourd'hui, qu'on voit comme, par exemple, au Congo, eh bien, on essaie de piller les richesses des pays voisins, de venir piller les richesses ou des grands ensembles qui viennent de façon un peu plus légale, peut-être sans guerre apparente, piller les richesses des pays qui en ont le plus. Et puis, des hyperpuissances, justement, ces hyperpuissances qui ont tendance à être de plus en plus hégémonique, à pouvoir étendre des pouvoirs immenses sur un seul homme ou sur un seul système, ça peut faire très peur, cette mondialisation politique. On a un peu l'impression d'être dans James Bond, quoi, avec quelqu'un qui veut prendre le pouvoir sur la Terre entière. Enfin, et à mon avis, c'est peut-être la pire, c'est la mondialisation culturelle. Alors, bon, ça peut être sympa, une certaine métissage, des modes de vie, des langues, des produits culturels, le cinéma, on découvre le cinéma ou la cuisine des autres pays, merci, c'est beau, etc. Mais de notre côté, il faut pas ignorer ce que le pape François a appelé la domination impérialiste intellectuelle et culturelle, c'est moi qui rajoute, de la culture occidentale, qui finalement a le plus de pouvoir médiatique et qui arrive à se répandre dans beaucoup de pays, à imposer un mode de vie, un mode d'habit, un mode de conception de l'homme, une anthropologie, un contrôle aussi des libertés. On n'a pas le droit de dire ça, on n'a plus le droit de dire ça, on doit respecter ceci ou cela, mais au nom de quoi ? L'étouffement des cultures les plus faibles. Voilà ce que disait le pape François. La mondialisation tend à imposer un modèle culturel unique, homogène, qui affaiblit les cultures locales. Et nous, en Martinique, on voit tout à fait arriver cela. C'est-à-dire qu'il y a un affaiblissement de la culture locale. Alors, qu'est-ce qu'elle fait lorsqu'elle commence à disparaître ? Elle réagit violemment. Et ça non plus, c'est aussi une zone d'ombre. C'est-à-dire que à ce moment-là, et c'est ce que j'appelle le communautarisme, c'est-à-dire lorsqu'il y a une volonté hégémonique d'une culture, les cultures minoritaires ou qui se sentent un peu plus faibles ou envahies, comme le Astérix et Obélix dans le village hein, d'Abraracoursix, ben va se défendre avec sa potion magique et par la violence. Voilà. Donc cette volonté hégémonique occidentale, le wokisme, le gender, le libertarisme, la cancel culture dont on a déjà parlé dans les catéchèses, l'athéisme essaie de s'imposer, mais du coup elle fait jaillir des communautarismes. On dit, ah oui, ce sont des intégrismes. Ah oui, mais c'est une réaction à une volonté hégémonique aussi. Un repli identitaire et de la violence. Et donc, vous voyez que cette mondialisation a cette zone d'ombre. Le pape François disait, la mondialisation nous rend proches, mais elle ne nous rend pas frères. Et j'ai entendu dernièrement, c'est la deuxième partie, une superbe conférence que je vous conseille du frère Roberto Pazzolini. C'est le nouveau prédicateur de la maison pontificale. C'est tout souvent un capucin. Il y a Raniero Cantalamessa qui était son prédécesseur. Et au bout de 40 ans, il a été remplacé par un autre frère capucin. Et il fait des conférences pendant l'Avent devant le pape Léon et la curie romaine. Et il a parlé de Babel dans la deuxième conférence, de la tour de Babel, comme une sorte d'uniformisation anti-humaine. C'est-à-dire qu'il a pris le texte de Babel de face à la mondialisation. Et voilà ce qu'il dit. Je vais lire le texte et puis faire un petit commentaire, mais je reprends quasiment mot pour mot son commentaire. Toute la terre, dit le texte, donc Genèse 11, verset 1 à 9. Toute la terre avait alors même langue et même mots. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, fabriquons des briques. Notez les briques. Mettons-les à cuire. Les briques leur servaient de pierre et le bitume de mortier. Alors, c'est quoi des briques? C'est un artefact. C'est quelque chose que l'homme a fait et les briques sont toutes identiques. C'est pas les pierres. Les pierres, il faut les tailler, elles sont pas identiques, il faut travailler un matériau qui est reçu dans la nature. Là, non. La pierre, c'est une créature, la brique, c'est quelque chose qui a été fait par l'homme. Ils se dirent, allons, bâtissons une ville avec une tour dans le sommet, dans les cieux, et faisons-nous un nom. Vous voyez ? Alors, le nom de l'homme qui vient s'opposer, et on est dans la Genèse, au nom de Dieu. Quel est le nom de Dieu ? Hein, le nom des hommes va venir. Et l'homme va, d'une certaine façon, être uniforme. C'est l'uniformité. Nous aurons un nom. Ils ont une langue, une tour, une ville. En fait, c'est la robotisation des hommes. Tous pareils, tous habillés pareils, tous consommant les mêmes produits, tous allant sur les mêmes sites internet avec des algorithmes qui les choisissent. Les hommes sont robotisés comme les briques, justement. Chaque homme est une brique. Et puis, construit une cité. Quel est l'architecte de cette cité? Et quelle est la volonté? Il y a derrière une sorte d'assimilation. forcée de l'être humain, une négation de sa personne, et puis une peur des libertés. Et on a vu au XXe siècle comment le nazisme et le communisme, les grands systèmes politiques, mais aussi le capitalisme avec les consommateurs, le capitalisme qui fait de nous des consommateurs, mais le nazisme et le communisme a voulu uniformiser les citoyens. C'est la tour de Babel, hein, dit-il. C'est la tour de Babel, c'est la volonté. Et donc, le Seigneur descendit pour voir la ville et la tour que les hommes avaient bâtie. Alors, il note que l'ironie, hein, ils veulent faire une tour aussi haute que les cieux, et finalement, le Seigneur est quand même obligé de descendre pour venir voir cette fameuse tour qui est très haute, mais qui est quand même pas aussi haute que les cieux. Il lui faut descendre. Et le Seigneur dit, ils sont un seul peuple, ils ont tous la même langue. S'ils commencent ainsi, rien ne les empêchera désormais de faire tout ce qu'ils décideront. Alors, on a l'impression que le Seigneur est un peu jaloux, il dit, ah, ils vont avoir mon pouvoir, etc. Mais en fait, dit Roberto Pasolini, il a raison, c'est, en fait, c'est une récompense. L'uniformisation, c'est une destruction de l'humain, de l'être humain, de la personne humaine. C'est une déshumanisation. Et donc, ces hommes qui veulent tout unifier, transformer les hommes en briques, finalement, ils veulent déshumaniser. Et l'homme finit par s'auto-détruire lorsqu'il essaie de contrôler sa propre existence. Et même celle de la nature, n'en parlons pas, qu'il finit par détruire. Vous voyez, que l'homme essaie de contrôler ce qui n'est pas de son ressort, eh bien, de désobéir, d'évacuer Dieu, en fait, il rentre dans une autodestruction. On le voit très bien avec la question du réchauffement climatique. Allons, descendons. Et là, dit Dieu, brouillons leur langue, qu'ils ne se comprennent plus les uns les autres. Le Seigneur les dispersa sur la surface de la terre. Il s'essère donc de bâtir la ville. On l'appela Babel. Alors et je suis assez d'accord avec cette interprétation, Roberto Pasolini, cette soi-disant punition jalouse de Dieu est en fait une bénédiction. La dispersion est une chance pour le peuple, une recréation. Parce que la distinction, le fait qu'on soit différent est une chance pour l'humanité. Vous voyez, la mondialisation qui uniformise, elle est au contraire un étouffement de la personne humaine. Alors on essaie de penser, vous n'avez pas le droit de penser comme ça, vous n'avez plus le droit de vous habiller de telle façon, etc. Les hommes sont égaux en droit. Oui, ça c'est clair, net et précis. Ça vient même de la Genèse. Ils sont tous faits, homme et femme, il les créa à son image, à sa ressemblance. L'anthropologie chrétienne est tout à fait d'accord avec le fait que les hommes, chaque homme est une personne, chaque homme, dit-le, est une histoire sacrée, chaque homme est unique, ça, il n'y a pas de problème, et chaque homme est à l'image et à la ressemblance de Dieu, donc à une dignité inaliénable. Par contre, la diversité, les hommes ne sont pas identiques, la diversité est source de communion, nous ne sommes pas des fourmis interchangeables, nous ne sommes pas des fourmis, on a besoin profondément d'être unique, c'est-à-dire différent de l'autre, pour être humain, pour entrer dans le « aimez-vous les uns les autres ». Et donc la mondialisation qui essaie de tout niveler, et qui nivelle, qui est l'architecte de ce nivellement, qui va dire quel est le niveau, qui va dire comment je dois m'habiller, me mâcher, etc., etc. Enfin, sinon dans des unités plus petites qu'on appelle des unités culturelles, un peuple en fait, un peuple qui peut être très très grand, comme dans les grands pays, je sais pas, la Chine, et encore même en Chine il y a plusieurs peuples avec plusieurs traditions. Et la Martinique, qui est tout petite, voilà. Mais c'est ce peuple qui prend cette direction-là, qui prend ce chemin. Or là, la mondialisation vient nier cela. Et donc, il y a une sorte de vision colonialiste de ce que certains appellent la créolisation. Il y a une bonne créolisation, à mon avis, mais il y a une mauvaise, hein, qui est une forme de néocolonialisme, de dire la créolisation, ce serait une sorte de gloubi-boulga, dans lequel, avec un regard un peu amusé, condescendant, et puis bienveillant de regard, voilà, on mélange un peu toutes les cultures, etc., on mélange tout le monde. Est-ce que c'est pas une forme de négation de l'unicité lorsqu'on mélange un peu tout? Vous savez, le gloubi-boulga, c'est le repas de Casimir dans L'île aux enfants, hein, le monstre gentil, qui mélange des anchois, du chocolat, des fraises tagada, des bananes, des pâtes, des nouilles et du fromage, et parce qu'il aime tout ça, alors il mélange tout. Et du coup, on respecte rien. Est-ce qu'on respecte chaque aliment si on mélange tout dans une salade qui ne, voilà. Donc, il y a une sorte d'une vision de cette mondialisation, certains appellent ça la colonisation, et ça m'énerve un peu parce que ça ressemble à une exposition coloniale, où le maître, où l'empire colonial, la métropole reçoit ses colonies, où chacun a montre son numéro, son tour, comme dans un cirque, en fait. Et il ne faut pas entrer là-dedans en disant, mais on m'a respecté parce que je suis venu faire mon petit numéro. Mais est-ce qu'on a respecté toute ma culture? Ou simplement, on m'a mélangé comme ça avec d'autres pour faire un kaléidoscope, qui n'a pas de, voilà, une juxtaposition de culture. Sous l'œil d'anciens colons repentis et amusés, je veux dire, c'est pas cela. Par contre, notre créolisation à nous, celle dont nous avons la science, nous les Antilles, c'est une culture unique. C'est une culture unique, originale, particulière. C'est pas parce que, évidemment, je donne souvent cet exemple, dans les acras de morue, hein, les beignets, voilà, qu'est-ce qu'on a? On a de la farine France, on a de la morue France, je sais maintenant faire avec du manioc, hein, mais ben, l'huile vient de France, la morue vient de France, la farine vient de France. Mais pourtant, nous faisons quelque chose qui est unique, qui est de chez nous, que ma grand-mère seulement et ma tante sait faire, hein, je veux dire. C'est pas n'importe qui sait le faire, vous voyez. Et donc, cette créolisation, comme dit, j'emploie un terme que je n'aime pas trop, mais exprès parce que certains l'emploient, oui, ça, par contre, mais elle est unique, c'est dans son unicité qu'elle, c'est pas parce qu'elle est mélangée à d'autres, comme dans un sorte de mélange qu'on regarde un peu de haut, qu'elle est bonne, c'est parce qu'elle est vécue dans son jus. Lorsque je suis dans mon petit restaurant au Prêcheur et qu'on m'offre mes ballards aux frites, et là, ça a du sens avec la mère de la Caraïbe qui me regarde. Vous voyez, le mélange, vous savez, ces animaux hybrides, les mulets ou les ligres, le mélange de lion et de tigre, mais le mulet c'est âne et cheval, ils sont stériles, ces animaux. Ils sont stériles. Donc il y aurait une forme de mépris, alors que nous avons inventé aux Antilles justement une forme unique, et justement nous revenons à cette culture unique, donc qui est anti-uniformisation en réalité. Alors maintenant, parlons, pour finir, de la réponse de l'Église, elle. Hein, ce que j'ai appelé l'universalisme, père de la communion des peuples. Universel, c'est le mot catholique, c'est le nom de notre religion. Hein. Depuis l'origine, nous savons vivre quelque chose qui est à la fois universel, qui touche tous les peuples, c'est le nom, encore une fois, de la religion catholique, ça veut dire universel, pour tous, et qui en même temps respecte chaque culture. Même si, nous, aux Antilles, c'est vrai qu'on a reçu la foi catholique à travers, je le dis souvent dans les catéchèses, à travers la colonisation européenne, enfin, l'arrivée des Européens. Mais c'est une religion qui n'est pas européenne. Elle vient du Moyen-Orient, elle s'est d'abord étendue en Égypte, en Afrique, en Orient, au Moyen-Orient et en Europe, de façon simultanée. Et donc, c'est une religion et qui a connu ces aspects. Ce que le Christ est venu apporter est profondément universel, je vais vous le montrer. Mais le Christ, quand il naît, il n'est pas citoyen du monde. On va fêter Noël bientôt. Il naît dans le peuple d'Israël. D'ailleurs, ce peuple d'Israël fait remarquer le père Pasolini. Et justement, on commence à en parler juste après la tour de Babel. Juste après la tour de Babel, on commence à parler de la... On va arriver à Abraham, etc., et à Israël. Donc quelque chose qui est à la fois unique, mais c'est parce qu'on est unique qu'on est universel. J'avais un ami qui était Cévenol, qui était protestant, communiste, athée, enfin protestant et athée, mais enfin bon, il était, voilà, tout ça. Il était l'inverse de moi, mais on était meilleurs amis parce que moi, j'étais très martiniquais, catholique, etc., et on se comprenait. Parce qu'on était enracinés l'un et l'autre dans notre foi, dans notre culture, dans notre façon d'être. C'est pas en gommant plus ou moins ce que nous sommes qu'on va être plus proche des autres. C'est en étant vraiment ce qu'on est que là on va au contraire comprendre l'autre. Et inversement, lorsqu'on essaie d'être effacé, qu'est-ce qu'il y a? Une réaction de violence. Donc les intégrismes naissent de la mondialisation, d'une certaine façon. Les intégrismes politiques, idéologiques, etc. Toutes les nations, disait Isaïe, marcheront vers ta lumière et les rois à ta clarté naissante. Ou encore, acte 1, verset 8. Je traverse la Bible en 30 secondes. On a fait Babel. Voilà. Vous allez recevoir une force. Le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ou encore, acte 2, la Pentecôte. Les Parthes, les Mèdes, les Élamites, les habitants de Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, de la province du Pont, de celle d'Asie, de la Phrygie, de la Pamphylie, de l'Égypte, des contrées de Libye, de la Cyrène, des Romains, les Juifs de naissance et convertis, des Crétois, des Arabes, tous nous entendons parler dans nos langues les merveilles de Dieu. Donc vous voyez, tout de suite l'Église naît dans cette ambiance universelle, qui n'est pas la mondialisation, qui est un respect de chacun, mais qui reçoit un message qui touche le cœur de chacun dans sa propre langue. Vous voyez, c'est pas une seule langue gloubi-boulga, on a mélangé, c'est chacun dans sa langue, dans sa culture, dans sa terre, entend la parole de Dieu et qui est l'unique. C'est ça, l'unité, elle est beaucoup plus profonde en fait. Elle est par le haut d'ailleurs, et par le bas en même temps. Et enfin, Apocalypse 7, « Après cela, j'ai vu une foule immense, » donc on finit la Bible, hein, « que nul ne pouvait dénombrer, une foule, de toutes nations, tribus, peuples et langues. » Donc déjà, vous voyez, dans toute la Bible, on a cette universalité qui traverse, mais qui respecte à chaque fois nations, tribus, peuples et langues. Il n'y a pas une seule tribu, c'est encore plus beau quand il y a plusieurs nations, c'est plus beau quand il y a plusieurs tribus, c'est plus beau quand il y a plusieurs peuples, plutôt que s'il y avait tout le monde pareil. C'est pas le projet de Dieu pour l'être humain. Et au contraire, parce qu'il y a une richesse, c'est une question que Jean-Paul II posait à chaque peuple, Martinique, Guadeloupe, Pologne, Amérique, enfin, etc. Qu'est-ce que tu as d'unique dans ta culture que tu apportes au monde entier? Quel est ton trésor? Quel est le trésor que Dieu a donné à toi seul? C'est une question qu'on m'a posée et je la repose souvent. On m'a posé à moi, tu es évêque de Martinique, c'est un frère prêtre qui me l'a posé. Quel est le trésor de la culture martiniquaise qui est un trésor que les martiniquais sont seuls? Je l'ai pas encore tout à fait découvert et j'ai pas envie de le découvrir tout seul. J'ai envie d'en parler avec beaucoup de monde. Et que nous sommes seuls à apporter au monde entier. Quand les prêtres de France me disent, quand il y a des Antillais parmi nous, des Martiniquais, des Guadeloupéens, et c'est eux qui sont le catalyseur de la paix entre les Tamouls, les Chinois, les Français, les Africains, etc. Quand il y a un Antillais, on est sûr d'avoir la paix parce qu'il comprend tout le monde, il fait le lien. Il dit, mon Dieu, ça belle. Oh là là, quand on est à l'étranger, on fait la paix. Alors que chez nous, bon, passons. Donc j'ai vu une foule immense de toutes langues, nations, tribus, peuples qui se tenaient devant le trône de l'agneau vêtus de robes blanches avec des palmes à la main. En fait, encore une fois, c'est l'Église qui est la réponse à travers l'ombre sinistre de la mondialisation. L'Église apporte un autre regard, toujours dans le côté sympathique, il y a un côté sympathique dans la mondialisation, encore une fois, la rencontre des peuples, comme dit le pape François, nous sommes plus proches, mais par contre, la mondialisation ne nous rend pas frères, au contraire, il y a des étincelles. Alors que l'Église va faire en sorte de créer, non pas le communautarisme, mais la communion. On va sanctifier l'Église, l'Évangile va sanctifier toutes les cultures, va apporter, va révéler comme le sel, voyez, que vous mettez dans un aliment, et qui va arriver, même dans le chocolat, on met du sel, parce que ça va révéler un petit peu les meilleurs goûts de chaque aliment. Vous êtes le sel de la terre. Et donc l'Église est là justement pour que toutes les cultures se sentent sanctifiées, ce qu'il y a de meilleur dans chaque culture va être sanctifié, et donc va créer la communion. Il faut, dit le pape François, que je prends beaucoup dans Laudato Si, renforcer la conscience que nous sommes une seule famille humaine. Oui, mais une famille, on est tous différents. Face à la mondialisation, dit encore le pape, il est nécessaire de créer un dialogue qui prenne en compte la diversité culturelle. Vous voyez comment l'Église, dans son origine, dans son fondement, elle doit et elle peut, et elle doit s'adapter à toutes les cultures. C'est exactement l'incarnation, ce que nous fêtons à Noël. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre.
Les jours anciens nous ensemencent, demain revient comme une chance. Frère soleil, mène la danse, rien n'est pareil, tout recommence. Comment ne pas dire merci pour autrefois, pour aujourd'hui? Le temps s'en va et l'on oublie, je suis vivant et toi aussi. Nous recevons en abondance, fruits de saison, eau de jouvence. L'enfant grandit, vaille que vaille, la terre crie, chante et travaille. Comment ne pas dire merci pour autrefois, pour aujourd'hui? Le temps s'en va et l'on oublie, je suis vivant et toi aussi. L'homme s'endort, l'homme s'éveille, malgré la mort, il s'émerveille. Que de beauté sur son visage quand il se tait pour rendre hommage. Comment ne pas dire merci pour autrefois, pour aujourd'hui. Le temps s'en va et l'on oublie, je suis vivant et toi aussi. Malgré la mort, il s'émerveille. Que de beauté sur son visage quand il se tait pour rendre hommage. Comment ne pas dire merci pour autrefois, pour aujourd'hui. Le temps s'en va et l'on oublie, je suis vivant et toi aussi. Comment ne pas dire merci pour autrefois, pour aujourd'hui. Le temps s'en va et l'on oublie, je suis vivant et toi aussi.
Bienvenue à tous, nous reprenons cette catéchèse, mais la partie question, cette fois-ci avec toujours la cathédrale de Fort-de-France, avec quelques paroissiens et paroissiennes de la cathédrale. Nous avons parlé donc dans la précédente catéchèse de la mondialisation, de l'ombre sinistre, du piège de la mondialisation avec ses côtés positifs et côtés négatifs. Mais on écoute les questions, mais on se confie d'abord à la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de tous les peuples, priez pour nous. Première question.
Monseigneur, est-ce que l'Église aurait un moyen d'intervenir quant à aux décisions politiques sur la mondialisation?
Alors, aussi bizarre que ça paraisse, oui, l'Église est l'un des plus grands systèmes, a développé un des plus grands systèmes diplomatiques du monde. Et d'ailleurs, dans le monde, lorsqu'il y a des ambassadeurs dans un pays, l'envoyé du pape, l'ambassadeur du Vatican, qui est un État, c'est un peu bizarre d'ailleurs, une communauté religieuse qui est aussi un État. Pourquoi l'Église investit en ayant dans beaucoup de pays dans le monde, la plupart, ce qu'on appelle un nonce, c'est-à-dire un ambassadeur, voilà. Quel est le rôle de l'Église? Pourquoi? Est-ce que c'est uniquement pour défendre les intérêts des catholiques? Oui. Et ce nonce, en général, il est le chef du corps diplomatique du pays. Pourquoi? Parce que l'Église ne défend aucun intérêt commercial, aucun intérêt politique ou géopolitique, et ne défend qu'une seule chose, la paix, la communion entre les peuples, le respect des cultures, le respect des plus faibles. Et donc, l'Église, notre Église catholique, investit, et ça coûte cher au sens financier, mais au sens aussi de son énergie, parce que c'est une mission qu'elle a reçue, la paix sur la terre, la mission de promouvoir au niveau politique, et pas simplement au niveau politique, j'y reviendrai, de promouvoir au niveau politique, donc en discutant avec les États, les chefs d'État, etc., mais aussi tout ce qui est de l'ordre de la politique, des gouvernements politiques, des nations, mais aussi des régions, des villes, de travailler à la paix des peuples. Parce que, finalement, c'est le réseau de renseignements le plus fin du monde. Lorsqu'il se passe quelque chose au fin fond de l'Amazonie, de l'Afrique, de l'Amérique, ou etc., tout de suite, le Vatican est au courant, puisqu'il y a des religieuses, des religieux, des prêtres un peu partout, des fidèles, qui font remonter les informations directes, et non pas simplement à travers ce que disent les médias. Parce que là, on a la vérité vraie, si je veux dire. Et donc le pape et autour de lui, le Vatican ont développé une véritable, les papes et le Vatican, une véritable réseau de diplomatie. Mais aussi une diplomatie, je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps finalement en visitant le Vatican, une diplomatie, une soft power, comme on dit, par exemple avec travers le dialogue culturel, les musées du Vatican, ou les archives du Vatican ont des documents historiques, et bien à travers cela, ils discutent aussi à d'autres niveaux, qui sont pas des niveaux politiques, où il y a aussi des organismes au Vatican, Justice et Paix ou autres, qui discutent avec des chefs d'entreprise. Comme a dit le cardinal responsable justement de ce genre d'organisme, par exemple le Dicasterp, le développement durable, il dit nous on discute pas avec les politiques, mais par exemple quand vous mettez un chef, un leader, un capitaine d'industrie saoudien à discuter avec un Américain et avec un Sud-Américain, ils parlent le même langage. Ce sont des grands chefs d'entreprise et avec eux on peut faire un travail incroyable avec les associations, les grandes ONG, etc. Donc l'Église, notre Église catholique a un vrai, certainement la religion entre guillemets, l'institution religieuse qui a le plus d'impact et d'investissement dans ce domaine. Question suivante.
Monseigneur, en tant que chrétien, comment réagir face à la mondialisation qui nous déshumanise?
Alors, je crois que ce que l'Église enseigne, d'ailleurs, le Concile Vatican II avait beaucoup insisté là-dessus, c'est la question de la culture. C'est-à-dire que la culture est au centre même de la catéchèse de la dernière fois sur la mondialisation. L'invasion de notre culture fait de nous des personnes passives. Mais quelle que soit la culture, je pense qu'un Français, même un Américain peut-être, enfin je sais pas, l'impression russe ou un Chinois, l'impression que tout le monde a l'impression d'être un peu envahi, et ça crée, a fortiori, d'autres pays, en Afrique, ou en Orient, dans les pays arabes, etc. On a l'impression d'être envahi par les autres. Et ça crée des réactions de réaffirmation, au contraire de repliement, d'esprit de clocher, si j'ose dire. Alors c'est justement pour cela qu'on a fait que j'ai fait cet enseignement, parce que on constate que la mondialisation chez nous par exemple va développer des idéologies qui vont pratiquer une sorte de révisionnisme historique, de victimisation de certains, de bourrouisation ou de bourreauisation d'autres, enfin, je sais pas comment le dire, ou au contraire enfin, on va essayer de trouver une solution pour protéger quelque chose qui est sacré. Et donc, on va sortir les armes. Alors que le catholique, le chrétien, c'est l'inverse, puisqu'il a une juste grâce à Dieu, pas parce qu'il est meilleur que les autres, mais le catholicisme nous donne une juste vision de cette volonté légitime des peuples de s'unir, de se rapprocher, de devenir frères, mais tout en respectant profondément. En ne se laissant pas avoir par l'ombre sinistre, par le côté sinistre d'une mondialisation qui pourrait détruire finalement, qui finit par détruire et créer des communautarismes. Donc on aboutit à l'inverse de ce qu'on voudrait, c'est-à-dire des guerres. En fait. Et c'est exactement ce qui se passe. Donc il faut raison garder, mais surtout proposer autre chose, éduquer nos jeunes à cette universalité, c'est-à-dire d'être profondément enraciné dans sa culture, mais tout en étant totalement tourné et ouvert à l'autre. Au contraire, c'est justement parce que je suis enraciné, que je connais, je sais qui je suis, comme dit la chanson, que je peux me tourner vers l'autre et le comprendre. C'est parce que Jésus est un vrai fils d'Israël, un vrai juif, qui a respecté à la lettre la loi juive de son temps, qui allait au temple, qui priait, qu'il me rejoint moi aussi dans mon universalité ou dans mon unicité d'antillais. Parce que ce qu'il a annoncé, je le retrouve aussi dans la culture d'homme. Et lui, il a annoncé en tant que juif, et évidemment, comme il est le Christ et le Seigneur. Par contre, ce qu'il y avait de différent, c'est que les juifs n'étaient pas un peuple, entre guillemets, parmi d'autres. C'était un peuple choisi par Dieu et façonné par Dieu lui-même. C'est pas quand on dit le peuple de Dieu, c'est pas que Dieu aurait fait passer un casting à différents peuples et choisi les juifs. Au contraire, eux, ils n'étaient pas un peuple, c'était un ramassis d'esclaves qui n'était rien. Et d'ailleurs, nous, Antillais, on peut se rapprocher aussi de cela. Parce que nous aussi, finalement, on vient de plusieurs ethnies africaines. On vient aussi de l'Europe, dans nos gènes, dans notre culture. On vient de l'Asie. On a des coutumes, on a du madras, qui est notre tissu. Notre madras, il vient des Indes, de l'Inde. Alors, on peut pas dire. Et en même temps, donc, ce qui nous unifie profondément, c'est aussi la foi. La foi fait partie profondément du ciment de notre culture. Il y a les autres éléments de la culture comme dans tous les peuples, mais il y a aussi la foi. Donc vous voyez, on rejoint cet universel, et donc le chrétien doit être assez conscient, éduqué à la fois dans ses racines pour pouvoir s'ouvrir à l'autre. Et ça, par contre, je crois que c'est le trésor profond des Antilles. J'en ai parlé dans la catéchèse l'autre jour. C'est vraiment notre trésor, parce que nous le vivons dans notre chair, ce que je suis en train de dire là. Nous avons des racines un peu partout, et pourtant ça crée quelque chose d'unique. Et ça, c'est un cadeau qu'on peut offrir au monde entier. Cet universalisme-là, respectueux de toutes les cultures, nous l'avons. Ça fait partie de notre culture elle-même. Ce que d'autres n'ont peut-être pas. Donc, nous pouvons l'offrir au monde, ça. C'est un cadeau que nous, on peut le faire.
Cette question, elle est plus portée pour les jeunes. Donc, les jeunes aiment naturellement se conformer à la société et aux mœurs qu'ils entourent. Et comment leur montrer, les inviter à s'affirmer et ne plus faire attention au regard des autres?
Ouais, j'aime bien avec ton portable, ça fait très jeune aussi. c'est normal, parce que quand on est jeune, on est façonné et fasciné, mais façonné aussi par le regard des autres. On le voit chez les jeunes êtres humains, on le voit aussi chez les jeunes animaux. Si vous élevez un chien, il va vous imiter au bout d'un moment aussi, etc. Et c'est par imitation. Sinon, si tout le monde recrée le fil à couper le beurre, les civilisations n'évoluent pas, parce que chaque génération se réinvente. Or, justement, une certaine idéologie de la cancel culture, dont on a déjà parlé dans une catéchèse, signifie qu'on doit tout réinventer. La nouvelle génération arrive, elle réinvente tout. Résultat, elle revient à l'âge de pierre et à la sauvagerie, à la violence initiale, c'est-à-dire qu'on ne bénéficie pas de l'apport des anciens. En même temps, dans ta question, les nouveaux moyens de technologie vont et les nouvelles idéologies qui vont avec, puisque l'homme, comme disait le Concile Vatican II, l'homme développe des technologies, mais il n'est pas préparé à la puissance des technologies qu'il développe. Donc, vont produire chez l'être humain un certain narcissisme. On se regarde soi-même, est-ce que je suis bien, est-ce que je suis comme les autres, et on est du coup terrorisé, ta question est très profonde pour l'individu, pour la personne. J'aime pas tellement le mot individu, je préfère le mot personne, parce que la personne, c'est sacré. La personne ne se découvre plus comme sacrée parce qu'elle va... quelque chose qui est en elle et qui est un feu et qui est un cadeau de Dieu, mais elle va d'abord se comparer dans le regard de l'autre. Et donc, parfois, le regard de l'autre peut être extrêmement négatif, extrêmement destructeur ou extrêmement invasif, au contraire, pour lui imposer une façon d'être et de faire qui n'est pas ce qu'il y a dans son cœur. Je donne un exemple. L'Église ne dit pas à chaque famille d'avoir 50, 15 ou même 10 enfants. Mais il y a certains couples qui sont appelés à avoir beaucoup d'enfants. Et la société actuelle leur impose, au contraire, de ne pas en avoir plus que deux garçons et une fille. Ça suffit largement, etc. Et de plus en plus, on a vu avec dans l'après-guerre, dans ce qu'on appelait la postmodernité, on a imposé un modèle culturel qui s'impose, il n'y a qu'à regarder, à travers les médias. Aujourd'hui, si vous regardez des Netflix, vous regardez des séries Netflix, il faut absolument qu'il y ait tel type de personnage, etc., etc., pour influencer la culture, influencer la façon de penser, influencer la façon de s'habiller, etc. Alors, pourquoi pas? Je crois qu'il faut respecter tout homme, il n'y a pas de souci. Je le crois au sens fort, parce que l'Évangile et le Christ me l'enseignent de tout mon cœur, et le respect est profond. Par contre, le fait qu'on essaie d'imposer, et c'est ça la faille de la jeunesse, si jeunesse savait et si vieillesse pouvait. La faille de la jeunesse, c'est en utilisant ce côté narcissique, donc je veux être à la fois unique et en même temps, c'est comme si le regard de l'autre qui est mon fameux miroir, donc le nombre de likes que je reçois sur mes réseaux, du coup, je deviens de plus en plus l'autre, enfin une sorte d'image floue de ce que les autres projettent sur moi au lieu d'être moi-même. Si au moins j'étais moi-même, pour un moment sortir de moi-même, savoir qui je suis, pour aller vers l'autre. Non, j'attends que l'autre approuve ce que je suis, et donc je vais me changer moi-même, voilà. Et donc il y a quelque chose qui est là très démoniaque. Et pour répondre donc à ta question, effectivement, l'expérience de l'éducation chrétienne, de la foi chrétienne, l'expérience personnelle, c'est quoi l'expérience? C'est on vous fait faire différentes expériences, normalement, ce qu'on ne fait plus faire, malheureusement, parce que ce sont les portables ou les réseaux qui éduquent. Mais quand on arrive à faire des expériences, à la fois de rencontres avec les autres, d'exercice de l'art, d'exercice de la vie intellectuelle. Pourquoi pas? Normalement, c'est l'école qui le fait, la vie intellectuelle. Mais de la connaissance aussi, de l'ouverture, de la rencontre avec l'étranger, de partir à l'étranger, etc. Toutes ces rencontres-là vont à la fois vous ouvrir aux autres et vous ouvrir à vous-même, découvrir qui vous êtes et pourquoi vous êtes fait réellement. Et je trouve que beaucoup d'êtres humains aujourd'hui deviennent comme les briques. Saint Carlo Acutis avait une phrase extraordinaire. Il dit « Beaucoup d'hommes naissent comme des originaux et ils finissent comme des photocopies. » Ils deviennent la photocopie de quelque chose d'autre qu'on leur a imposé. Et ça, cette phrase, elle est prophétique parce que il faut retrouver une manière d'éduquer et de regarder mon voisin, mon fils, ma fille, mes hommes, etc., comme étant un original, quelqu'un qui est unique aux yeux de Dieu, qui a un talent propre. Quel est ce talent que l'on recherche et qui va se développer? Et si les jeunes eux-mêmes pouvaient découvrir cela, chaque jeune, je le disais tout à l'heure, parce que régulièrement j'ai des jeunes en confirmation, on vous confirme, mais la confirmation et le cheminement, c'est précisément pour que vous puissiez découvrir qui tu es vraiment, la meilleure version de toi, mais pas fabriquer quelqu'un d'autre, ni même dans le regard de personne, mais dans le regard de ceux qui t'aiment d'abord, qui peuvent te renvoyer un regard de ce que tu es vraiment, mais aussi d'abord dans le regard de Dieu qui te dit qui tu es. Et là, ben, j'y vais. Et j'y vais, je donne le meilleur de moi-même, c'est-à-dire dans la foi et l'amour.
Monseigneur,
oui?
Internet est-il un outil d'évangélisation pour notre monde actuel et surtout pour notre jeunesse?
Oui, puisque nous sommes sur Internet pendant que nous parlons, donc je serais malvenu de scier la branche sur laquelle je suis assise, si j'ose dire. On n'a pas le choix. Un outil, c'est un outil. Un outil, c'est un outil, donc il n'a pas de... Comment dire? Je ne peux pas condamner un outil en tant que tel. Par contre, l'usage, évidemment, que l'on fait de cet outil, et surtout, il y a l'usage, mais avant l'usage, il y a la préparation, il y a l'éducation à cet outil. Donc nous sommes, nous, au moment où on enregistre cette vidéo, on est en fin 2025. Internet est déjà là depuis combien de temps? 20 ans dans nos vies à peu près. C'est beaucoup et peu à la fois. C'est rien du tout à l'échelle de l'humanité. Combien ça nous a pris de temps pour apprivoiser la télévision? Pour ne pas rester scotché, etc. Comment aujourd'hui, alors cette mondialisation, c'est la mondialisation aussi de la parole de l'Évangile. Il y a des sites pour ça, etc. Des prédicateurs, des enseignements, des témoignages. Il y a même le chapelet en direct, etc. Super, il y en est dessus. Des influenceurs chrétiens, mais il y a aussi le plus mauvais, il y a aussi la mondialisation en deux clics de la pornographie ou des choses extrêmement basses de l'âme humaine ou de la d'une vision de l'homme, des mensonges aussi, des fake news. Mais ça reste un outil. Donc la réponse est oui. Il faut pas être béat. C'est-à-dire, chez nous, on dit « Ababa ». Il faut pas être béat, dire « Waouh, tout est beau, tout est... » Pas être naïf. Il faut pas non plus, inversement, être complètement renfrogné et négatif en disant « Voilà, tout est mauvais ». Eh bien, tous les papes nous ont... Et Benoît XVI a été le premier, il a dit « Il faut évangéliser les continents ». Quand le Seigneur dit « Allez jusqu'aux extrémités de la Terre », le continent numérique fait partie des continents à évangéliser. Alors, on est minoritaire. Moi, quand on fait 10 000 vues, on est content. Et d'autres avec une seule bêtise, où ils se montent dénudés, vont faire 3 millions de vues. Donc, on a l'impression d'être nul. En même temps, la parole de Dieu, elle s'est toujours mélangée au bavardage du monde. Quand le Christ naît, on va fêter Noël. Quand le Christ naît. Eh ben, il se mélange à tous les bébés du monde. Quand il prêche, il se mélange à tous les sages, à toutes les paroles de sagesse, de philosophie, plus ou moins frelatées, plus ou moins gnostiques, hérétiques. Enfin, hérétiques, on peut dire le terme en sens propre à ce moment-là, mais toutes les paroles, comme Moïse arrive face aux magiciens d'Égypte. Et il est minoritaire face aux magiciens d'Égypte. Et le peuple de Dieu est minoritaire face à l'Égypte, aux religions de son époque. C'est un tout petit peuple. Ils sont ignorés de la grande histoire, d'ailleurs. On en parle à peine de ce peuple dans les livres d'histoire. On parle des Perses, des Romains, des Égyptiens, etc. Mais pas du peuple juif, que personne ne les connaît. S'il n'y avait pas eu la Bible, et pourtant, jusqu'à aujourd'hui, ben, c'est de ce peuple qu'est né le Sauveur du monde entier, et de ce peuple qu'est né la foi, la relation la plus élevée avec un Dieu Père. Donc les chrétiens ne doivent pas avoir peur de se mouiller, et même un évêque a écrit un texte sur ce qu'il a appelé le martyr médiatique. On ne doit pas forcément jouer les polémiques, etc. En même temps, il faut rentrer, il faut connaître le milieu, les médias, Internet, les réseaux, etc. Et il faut y aller avec ce qu'on est, parce que en fait, c'est pas la force de notre persuasion qui compte, c'est la puissance du message qui vient du Christ. À chaque fois qu'on ouvre la bouche pour Jésus, quand on parle à son enfant, à son filleul, ou qu'on parle à une foule, ou qu'on parle à des milliers de personnes, comme on est en train de le faire en ce moment, parce qu'il y a même des milliers de personnes qui nous écoutent, eh bien, c'est le Christ qui parle. En tout cas, c'est lui qui va passer à travers ce qu'on veut dire.
Monseigneur, pour lutter contre ces idéologies un peu tyranniques qui nous attristent, tous, comment concilier cette liberté qui est d'être unique, qui est un don de Dieu, et la vertu d'obéissance qui a été si bien illustrée par la Sainte Famille pendant la période de l'Avent, rendre à César ce qui appartient à César.
Ouais, en effet, ouais, en effet. Moi, je pensais pendant que vous posiez la question au fait que ce monde essaie de nous mélanger et nous fait peur en fait. Voilà. Quand on passe des heures sur les chaînes d'info continues, des heures sur les réseaux, etc., à la fin, on a l'impression de ne plus compter pour rien. Et que le monde se déroule finalement sans nous. Et que, de toute façon, ça sert à rien, qu'on est écrasé, on a vraiment l'impression. Or, le chrétien, il sait qui il est, d'abord en pensant à l'échelle humaine. Et la carte que l'Église doit jouer, je vais vous révéler un secret, il faut que personne n'écoute, c'est un secret, d'accord ? C'est que, en fait, ceux qui veulent abattre l'Église, parce qu'ils voient l'Église comme une superstructure humaine, et l'Église est, elle est internationale, elle est effectivement universelle, donc elle est dans le... elle passe sur les radars, on la voit sur les radars de la mondialisation, l'Église catholique. Et donc, on essaie de l'abattre. Et nous, on peut se faire avoir aussi, nous les chrétiens, en disant « Ouais, on aimerait que les évêques aient plus de position politique, que le pape ceci, que... » C'est-à-dire qu'on va avoir une vision des responsables, des pasteurs de l'Église, comme une vision politique. Or, le Christ a échoué politiquement. Politiquement, Jésus, il y a un moment où il a réussi. Il y a un moment où il a gagné les élections, c'est au rameau. Il a pris la ville, au rameau, Hosanna au fils de David. Tout le monde met les manteaux par terre, on sort les palmes, etc. Toute la foule est excitée, tout le monde a peur. Le gouverneur romain tremble, le Sanhédrin dit « qu'est-ce qui nous arrive ?» Jésus arrive sur un ânon, la foule est avec lui. Ouais, mais enfin, quatre jours après, la même foule disait « crucifie-le ». Et là, le plus grand échec politique de tous les temps, c'est la croix. La foule qu'il adorait, au bout de 4 jours, la foule, l'invective, l'injurie, écrit à mort et préfère Barabbas, qui est un criminel, à celui qui a tout fait pour elle. Donc, il a un bilan parfait, si j'ose dire, si je parle de politique et voilà. Et son bilan, ben, on s'en fiche complètement. C'est son image, ben, il n'est pas à la mode à ce moment-là. On préfère Barabbas. Et donc, le chrétien, à un moment donné, doit accepter d'être un peu crucifié, mais surtout, de dire, mais en fait, mon échelle à moi, c'est quoi ? Mon échelle à moi, vous voyez, quand je regarde les chaînes d'info continue, alors je vois la guerre en Palestine, enfin à Gaza, la guerre en Ukraine, au Congo, c'est celle qui m'effraie le plus, enfin il y en a d'autres, je suis affolé, et puis les menaces de guerre en Europe, etc. Et puis nous, un jour, si demain matin, le bateau n'arrive plus en Martinique, comment on va manger ? Enfin, on a peur, etc. Mais finalement, mon échelle à moi, ce sont mes collaborateurs, mes voisins. Quand je descends dans la rue de Fort-de-France et que je rencontre des gens qui me saluent, des pauvres qui me disent un petit mot de bénédiction, c'est le Christ. Et donc, à un moment donné, il faut dire, mais attends, quelle est mon échelle ? Mon échelle à moi. Et dans mon échelle, parfois, tout va bien. On a fait un sondage une fois, et des gens disent, mais tout va mal ou tout va bien dans ta vie? Tout va bien. Mais est-ce que le monde va mal? Oui, le monde va mal. Est-ce que ça va? Non, je veux pas bien. Mais toi, tu vas bien? Oui, ça va. Oui, moi, ça va. Très bien, ma famille. Et donc, le jeu du diable, parce qu'on n'a pas encore employé le terme, et il faut bien l'employer, c'est de nous faire croire de cette grande illusion que tout va mal, de nous faire désespérer. Et donc, l'échelle du chrétien, C'est et là, voilà le secret que je voulais vous partager, c'est que en fait, on est en train de rapetisser là les communautés chrétiennes, mais la petite mamie ou le petit jeune de 15 ans qui est dans son lycée, qui est peut-être le seul catholique, ou toi qui es tout seul dans ton boulot, etc., ou même dans ta famille, là, tu passes sous les radars. La superstructure catholique avec l'évêque, machin, tout ça, elle passe pas sous les radars, la flingue. Mais par contre, les petits missionnaires, et c'est ça la révolution aussi actuelle, on voit ça dans l'Église de France, mais aussi dans l'Église de Martinique, Dieu merci, on ne voit pas venir la petite mamie, parce qu'on doit tous avoir un corps d'athlète ou de mannequin, on doit être beau, machin, présenter, savoir parler en public, etc., machin, mais la petite mamie qui arrive en sa trois pattes et qui annonce l'évangile à ses voisines, à ses petits-enfants, à ses enfants, à ses arrière-petits-enfants, qui sert les pauvres, etc., elle passe sous les radars, et c'est comme ça que l'Église va remporter la victoire, grâce à ce témoignage du peer-to-peer, et non pas l'église de masse, qui fait des grands trucs et tout. C'est vrai qu'il y a des grandes JMJ, des grands trucs, c'est photogénique, mais l'église de détail, lorsque les voisins entre eux vont poser des actes d'entraide, lorsqu'on va parler à son ami, lorsque à l'église, enfin, dans nos paroisses, on se connaîtra par nos prénoms, qu'on s'appellera pas les gens, mais mon frère et ma sœur, là, cette église-là, elle passera sous les radars. Et donc, on ne sera plus inquiet de ce monde et ce brouhaha, ce vain tumulte des nations dont parle le psaume 2, hein, le vain tumulte des nations. Ça, le brouhaha, déjà à l'époque du psalmiste, mais on sera heureux d'être avec le Seigneur. Notre secours est dans le nom du Seigneur.